Salut tout le monde, bienvenue à ce premier podcast de la saison 2023-2024 de Hockey sur demande, épisode du 10 septembre 2023. Stéphane, encore une fois de retour cette année, merci d'être toujours fidèle au poste. Comment s'est passé ton été, Stéphane?
Occupé, mais écoute, super, je suis content d'être avec tout le monde, je suis content de te revoir Max, on s'est désolé avant le podcast. Là, OK, ça sent bon. Moi, je suis dedans déjà avec mes enfants puis avec l'association, donc ça va bon train, mais très content d'être revenu. Ça a été un été qui était chaude et pluvieuse. donc
c'était tout ou rien. Hein. Soit qu'il faisait plus 40, soit qu'il mouillait et faisait 15.
C'est... Exactement. Donc, ça a été une belle été quand même. On chialera pas.
Excellent. Donc, salutations à tout le monde qui sont dans le chat. Là. N'hésitez pas à nous écrire. Là, on va vous lire également là, tout au long du podcast. Aujourd'hui, ça va être un épisode un peu... Je dirais pas relax, mais tu sais, on va revenir un peu sur qu'est-ce qui s'est passé durant la saison morte, les plus gros sujets, on va en discuter. Et peut-être qu'on va avoir un invité, j'ai tendu la perche là, à Pierre-Luc Siméon, là, qui est l'entraîneur adjoint des Condors du Cégep Beauce-Appalaches dans la Ligue Junior 3A. Les Condors qui jouaient aujourd'hui du côté de Laval, donc ils faisaient le chemin inverse ensuite jusqu'en Beauce, là, ils partaient à 4h30, donc je ne sais pas si... va être en mesure de se joindre à nous ce soir. Mais s'il réussit à se joindre à nous, on va le rentrer là, dans le podcast. Là, puis on mettra sur pause un peu là, de la discussion qu'on va avoir. Mais on va espérer qu'il se pointe ce soir. Sinon, eh bien, ce sera partie remise à ce niveau-là. Et à partir de la semaine prochaine, ça va être les podcasts où on va faire nos prédictions. Donc, chaque division, on va y aller avec notre classement dans la LNH là, pour la saison 2023-2024. Donc, ne manquez surtout pas ça. Si vous voulez faire le vôtre aussi de votre côté pour qu'on puisse comparer durant le podcast, eh bien, ça va nous faire plaisir là, de lire vos propres prédictions. Sinon, je pense que j'ai pas mal tout dit. On peut débuter ça, Stéphane. Écoute, on va débuter avec quelques sujets là, qui ont... salutations Explore qui est déjà dans le chat.
Oh yes.
En forme, mon cher. Ouais. On va commencer avec, je pense, c'est un des plus gros sujets du côté du monde du hockey, mais dans la LNH, entre autres. Et c'est la fameuse retraite de Patrice Bergeron, parce que vient chambouler un petit peu le plan des Bruins. Et je dis la retraite de Patrice Bergeron, mais aussi David Krejci, il ne faut pas oublier, qui a quitté le navire également. Je vais te lancer sur une première question, Stéphane. C'est quoi la suite pour les Bruins? Est-ce que, tu sais, je sais qu'on va faire nos prédictions, qu'on va y aller plus en détail, mais à première vue, est-ce qu'on peut dire que c'est le début de la dégringolade du côté des Bruins ou si, encore une fois, ils vont tous nous déjouer puis ils vont finir quand même dans le top 3 de la division Atlantique la saison prochaine?
Écoute, moi, je pense que c'est l'ère de la nouveauté du côté des Bruins. Je pense pas qu'on va être dans les pires équipes de la Ligue. Par contre, on va probablement se battre pour une place en série, ça, c'est sûr. Par contre, ce que j'aime des Bruins, c'est qu'on garde quand même un noyau efficace avec... avec les Pasternak, avec Marchand qui devrait prendre un rôle de leader un peu plus grand. On a aussi deux bons de gardien de but. On a le retour de Lou avec Boston, avec la bosse de Notre-Dame dans le coup. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Vous avez jamais remarqué?
J'avais pas vu venir, celle-là.
C'est incroyable. Donc, non, ça va être le fun. Puis je pense que les Bruins, on peut jamais les déclasser à chaque année. On l'a fait l'année passée, on s'est fait avoir. Mais je pense que oui, c'est un gros morceau, Bergeron. Oui, ça a été vraiment l'âme de cette équipe-là pour les 18 dernières années. Il avait un bon rôle. Krejci, je vais te le donner. L'année passée, je pensais que c'était une banana split. Mais finalement, ça a donné une bonne saison du côté de Krejci.
Un beau gros sundae au chocolat.
Exactement. Mais je pense qu'on s'en va vers une chose plus grande. Faut pas oublier que c'est le centenaire aussi au niveau des Bruins. Donc, c'est la 100e anniversaire de la concession. Donc, on va probablement fêter ça en grand. Et je crois que les Bruins vont être compétitifs, mais je pense qu'on va revoir Patrice très rapidement dans l'organisation des Bruins. Je ne sais pas où, mais probablement qu'il va rester à l'entourage, c'est sûr.
Salutations à M. Jean-Paul Veilleux qui est dans le chat. Explore qui mentionne également dans le chat là, que Pavel Zaka, comme centre numéro 1, je ne leur donne pas la coupe aujourd'hui. Moi, c'est là que je veux m'en aller du côté des Bruins parce que je trouve que les pertes de Krejci et Bergeron, et en plus qu'on a échangé Taylor Hall aussi durant la saison morte là, aux Blackhawks, font en sorte que je suis un peu inquiet pour le punch à l'attaque de cette équipe-là. Puis la raison est que Taylor Hall a inscrit 16 buts l'année dernière, Bergeron en a inscrit 27, Krejci en a inscrit 16, donc un total de 59 buts. Et on remplace ça avec Milan Lucic qui en a inscrit 7, JVR qui en a inscrit 12 et Morgan Geeky qui en a inscrit 9. On parle de 28 buts. On a 31 buts là, dans le négatif là, avec juste ces trois swaps-là qu'on a fait du côté des Bruins. Et tu sais, est-ce qu'un Jake DeBrusk va pogner un step l'année prochaine? Ça se peut. Est-ce que Zaka peut également maintenir son niveau de jeu comme l'an dernier? Peut-être aussi. Mais tu sais, tu regardes présentement ce qui s'en vient du côté des Bruins. Il n'y a pas une grosse relève immédiate du côté de Boston. Tu sais, l'attaquant, le meilleur espoir du côté des Bruins à l'attaque, c'est Fabien Lissel, qui est un choix de première ronde il y a deux ou trois ans. Il a joué sa première saison dans la Ligue américaine l'année dernière. Ça n'a pas été fructueux tant que ça. Fait que pas tant sûr qu'il est prêt pour un rôle dans la LNH. Fait que moi, c'est là que j'ai hâte de voir à quel point que cette équipe-là va être capable de marquer des buts, contrairement à l'an dernier. Et évidemment, on parle tout le temps des intangibles, mais quand tu perds un gros morceau dans le vestiaire comme Patrice Bergeron, qui est un des plus grands responsables de cette culture-là qu'on a, on vend tellement la culture du côté des Bruins, et Patrice Bergeron qui en fait partie, qui est une des raisons principales de cette culture-là, puis on l'a vu avec la signature de Mitch Miller, que ça n'avait pas du tout passé du côté de Boston, et finalement, en raison du fait que les leaders des Bruins ont dit « Non, on ne veut pas ce genre de joueur-là dans notre vestiaire », les Bruins ont finalement décidé de faire marche arrière. J'ai hâte de voir l'impact aussi que ça va avoir dans le vestiaire, cette absence-là d'un gars comme Patrice Bergeron. Mais en même temps, comme tu l'as dit, il y a encore des gars qui sont là, il y a encore Marchand qui est là, il y a encore
Pastrnak. Non, Mark, Swayman comme gardien, il ne faut pas les enlever, ça c'est deux bons.
Aussi. J'aurais aimé qu'ils soient en mesure de garder Dmitri Orlov, mais ils n'ont pas été en mesure de le faire malheureusement. Mais du côté des Bruins, je pense que je m'attends à une baisse de régime de leur part. Je ne les vois pas les premiers, peut-être même deuxième de la division Atlantique. Mais je pense qu'ils peuvent quand même viser un poste top 3 dans cette division-là. Moi, je ne les compte pas hors des séries, mais c'est sûr qu'ils vont une régression. Là. Je ne peux pas croire qu'on va réussir à avoir une saison. Premièrement, ça va être dur de répéter ce qu'on a fait l'an dernier. Mais en plus, sans ces joueurs-là que j'ai mentionnés, ça va être très difficile du côté des Bruins de réussir à se maintenir au niveau de jeu qu'on avait la saison dernière.
Ouais, puis je pense que la personne qui va prendre le plus de chaleur au niveau de ses épaules, ça va être Pastrnak. Écoute, l'année passée, c'était une saison exceptionnelle avec 113 points, 61 buts, 52 passes. Et le plus proche, c'était qui? Brad Marchand avec 67 points. Donc, c'est quand même presque 40, presque 50 de moins. Patrice avait fini avec 58. Pavel Zacha à 57. On va pas prendre plus de temps de glace au niveau des achats. Mais on va voir comment ça va aller. Il faut voir que les gars en donnent un petit peu plus. Est-ce que Lindholm va récidiver avec une autre saison de 50 points? On va le savoir l'année prochaine. Mais je pense que on va vraiment tester la valeur de Ullmark. Est-ce que Ullmark va amener les Bruins à un autre level, un peu comme les Vasilevski de ce monde présentement le font avec Tampa Bay? Donc, c'est vraiment là qu'on va voir si Ullmark est prêt à faire le saut vers un des plus hauts, les 2, 3, 4 élites de la Ligue nationale. Mais t'as raison. Ça va être difficile. L'Atlantique est quand même assez forte comme division. Et il ne faut pas oublier que cette équipe-là ne va pas rouler avec seulement un bon joueur en haut de 80 points. Il va falloir que les Bruins, surtout Brad Marchand, se remettent à marcher. Pas à marcher, mais se remettre à fonctionner. Le jeu de mots s'en va tout seul.
Ouais, c'est ça. Ça se faisait automatique. Hein?
C'est automatique. Donc, il faudrait que Brad Marchand revienne avec une grosse saison. Mais il ne faut pas oublier qu'il a manqué quand même des matchs la semaine de l'année passée aussi.
Salutations à mon collègue Jean-Michel avec le Cool FM qui mentionne mieux que Ottawa et Détroit. C'est sûr qu'on va y aller plus en détail lorsqu'on va faire nos classements au niveau de la division, mais c'est deux clubs que je n'ai pas tant vendu jusqu'à maintenant. T'sais, Ottawa, moi je le dis encore, ils n'ont pas une très si bonne défensive que ça.
Non.
Est-ce que Corpy Salo, c'est la solution comme gardien de but? J'ai hâte de voir ça du côté d'Ottawa, mais je ne sais pas sur quel pied danser. C'est sûr qu'ils ont des bons éléments à l'attaque, mais je pense que c'est à partir de la ligne bleue vers le filet que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Puis Détroit, écoute, Stéphane, c'est ton club, tu vas pouvoir plus nous en parler quand tu vas faire tes prédictions, mais je comprends pas trop ce que Steve Eiserman a fait cet été, pour vrai.
Ça a été un peu un été contraire aux autres étés, mais en même temps, je pense qu'il faut gagner maintenant du côté des Red Wings. Est-ce qu'on était chercher les meilleures personnes pour gagner? Ça, c'est un autre point que je vais débattre aussi de tout côté.
Ben, moi, j'ai comme. Je vais y aller vite. Je vais y aller vite parce que, comme j'ai dit, on va en parler dans les prochaines semaines. Ouais. Mais j'ai comme l'impression que Eiserman a peut-être fait un petit peu un désaveu envers ces jeunes. T'sais, il voulait bâtir par la jeunesse et tout ça. Mais bon, Zadina, ça n'a pas fonctionné. Il y a d'autres joueurs qu'on attend aussi, qu'on espère qu'ils vont se développer, qu'ils vont réussir à cogner à la porte. Mais il n'y en a comme pas tant que ça. Il y a Kasper qui s'en vient cette année. Mm-hmm. Mais encore là, est-ce que c'est une période d'adaptation? Là, il a joué en Suède l'année dernière, c'est pas la même dimension de patinoire, etc. Donc, il faudra qu'il s'adapte. Donc, on a peut-être voulu patcher avec des vétérans à court terme pour espérer donner plus de temps avec les jeunes. Mais comme tu as dit, est-ce que c'est les bons joueurs qu'on a amenés? C'est ça que j'ai hâte de voir. Mais c'est pas une mauvaise équipe, les Red Wings. Mais moi, je vois plus un Détroit puis peut-être Ottawa se battre pour la quatrième place, peut-être pour les Wild Cards, puis Boston je leur donne quand même un edge encore dans le top 3 en raison des vétérans qui sont encore là. La défensive qui est quand même pas mauvaise non plus. Là, on a encore Carlo, Lindholm, McAvoy et Gray-Chick qui sont quand même très bons. On a ajouté Shattenkirk aussi, là, peut-être plus un spécialiste pour l'avantage numérique là, du côté de Boston. Puis on a quand même deux très bons gardiens. Puis je pense que le duo de gardiens de but du côté des Bruins est meilleur que celui des Sénateurs et des Red Wings. Donc là-dessus, je vais donner le edge du côté des Bruins. Mais ces trois équipes-là vont probablement se battre pour les positions 3 et 4 là, dans la division Atlantique. Ça, il n'y a aucun doute. Là. Mais ouais, je pense que je vois Boston sortir gagnant.
C'est surtout qu'on vibe à Détroit sur quelque chose. Comme tu dis, on n'a pas des aveux envers les jeunes, mais je pense que c'est pas assez vite. Et je pense que Dylan Arkin en a long à dire là-dessus sur son contrat que renouvelé l'année passée. On va quand même chercher des joueurs qui sont talentueux avec lui. Là, on a cherché quand même un Debrincat. On a des Comfort qui vont être là aussi cette année. On a David Perron qui revient. Daniel Sprong a été cherché aussi de ce côté-là. T'sais, défensivement, on cherche quand même un bon an avec Gustis Bear. Pas bon défensivement, mais c'est un gars qui a un avantage numérique peut t'aider. Ce qui ne fonctionne pas à Détroit depuis les 6 dernières années, l'avantage numérique, c'est pas un des meilleurs avantages numériques. Et Jeff Petrie, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un gars qui peut donner quand même une quarantaine ou une cinquantaine de bonnes games, 30 mauvaises. Mais je pense que c'est quand même bien pour qu'est-ce que le Détroit avait. Mais je pense qu'on est vraiment rendu en deuxième vitesse côté de Détroit. Puis Steve Eisenman, je pense qu'il a perdu patience. Pourquoi? Parce que justement, ça fait 6 ans qu'on attend ce côté de Détroit. Et là, je pense que le monde commence à sortir de la soupe chaude.
Salutations à Mathieu Piette qui est dans le chat qui mentionne les Panthers et Tampa sont encore solides, faut pas les négliger. Ben, c'est pour ça. Puis tu sais, même à la limite, je sais que je me suis amusé, entre guillemets, que j'ai parlé beaucoup des Leafs en mal, mais j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait cet été, qu'est-ce qu'ils ont amené. J'étais pas trop sûr là, du côté du nouveau DG des Leafs en raison de qu'est-ce qu'ils avaient fait du côté des Flames, Brad Treliving, mais je dois avouer qu'il a vraiment bien fait cet été. À part peut-être un contrat qu'on va en reparler dans les prochains podcasts, Stéphane, que t'as pas trop trippé de ton côté. Mais sinon, les ajouts de Bertuzzi et Domi, il manquait de grit un peu en plus de l'offensive secondaire pour épauler justement le fameux four-core. Et je pense qu'avec Bertuzzi et Domi, on était allé chercher exactement ça. Fait que tu sais, dans le top 4 de la division, c'est clair que ça va être Tampa, Floride, Boston, Toronto vont se battre là, pour les 4 premières positions. Et puis tu sais, il y a peut-être aussi ça le problème du côté d'Ottawa et Détroit, c'est qu'il va falloir passer ces 4 clubs-là si on veut essayer de monter dans le classement. Ça va être difficile d'accéder au top 4 avec ces 4 équipes-là. Puis tu sais, même Buffalo, à la limite, ils n'ont pas un mauvais club, Buffalo. Puis en plus, si Devan Levi peut être, j'aime pas ça utiliser ce terme-là, mais le sauveur, parce que du côté des
Sabres,
c'est un bon gardien là, qui nous manque là, du côté de Buffalo. Mais si Levi peut être ce gardien-là, t'sais, ils ont déjà une bonne attaque avec Owen Power et Rasmus Dahlin en défensive, là, qui sont des jeunes qui vont évoluer. Ils vont avoir une solide défensive là, du côté de Buffalo, donc ça ne sera pas négligé aussi. Fait que tu sais, ça va être. On vantait beaucoup l'année passée la division métropolitaine qui était très forte. Mais là, je pense que cette année, l'Atlantique, ça va être quelque chose aussi. Je pense qu'on va avoir deux très bonnes divisions dans l'Est.
Oui, pour pas trop en parler, je suis d'accord avec toi. Puis les livres, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le contrat des Hurricanes. C'était, on était cherché du grit, on était cherché du monde qui vont pas se taper sa gueule en signe parce qu'on n'en parle plus ici au Québec parce que c'est rendu légal dans la GMQ, mais on des équipes qui vont aller chercher les rondins
en fin de mois,
un petit jab en passant, un gros jab en passant. Donc, on va aller chercher surtout des joueurs qui sont respectés sur la glace. Puis je pense que c'est ça qu'on n'avait pas du côté des Leafs. On a vu le Matthews en première ronde se faire malmener quand même. Deuxième ronde, on a réussi à rentrer des buts, mais ça a été quand même difficile. Les Hurricanes n'ont pas encore fait ça cet été, puis je pense que c'est ça qui va leur faire mal. Les Devils ont un peu le même principe du côté de la métropolitaine, donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer, mais je ne serais pas surpris qu'il y ait plus d'équipes de cette année dans l'Atlantique qui passent les métropolitaines. Et comme disait Max tantôt, c'est juste il y a 4, peut-être 5 grosses équipes à passer avant de se classer en série. Ça va être très difficile, les Red Wings et les Sénateurs. Et il ne faut pas négliger non plus les tu sais, Toronto, il reste le dossier Nylander à régler. Le contrat de Matthews de trop de millions, mais ça va être un autre dossier. Mais ça reste que cette équipe-là a beaucoup d'attaques, beaucoup de punch offensif, beaucoup de grids cette année, puis il va rester que les deux défenseurs vont probablement être moins pénalisés avec ça. Donc, les joueurs de
on a oublié beaucoup, on n'a pas mentionné, mais Ryan Reeves s'amène aussi à Toronto. Je veux dire, ça ne sera peut-être pas un joueur qui va être là tous les matchs, mais. La seule chose que je me demande, est-ce que ça va virer en Wade Simmons numéro 2? T'sais, un joueur qu'on amenait pour avoir du respect, mais finalement, il ne sera pas dans le line-up 3 games sur 4. C'est ça que j'ai hâte de voir, mais quand même, Reeves, c'est le top guy au niveau de la robustesse puis pour jeter les gants et imposer le respect. Donc, tu sais, c'est ça, je dis, là, du côté des Leafs, on a vraiment eu une belle saison morte. Là. Je pense que cette équipe-là, oui, j'ai ri beaucoup d'eux l'an dernier, mais là, je pense qu'ils vont me le remettre dans la face l'année prochaine. Puis, tant mieux pour eux. Je pense que ça leur prenait peut-être juste une nouvelle vision. Puis, Brad Treliving, c'est ça qui a emmené là, du côté de Toronto. Reste à voir maintenant si sur la glace ça va fonctionner parce que c'est souvent là. Souvent, les idées étaient bonnes sur papier, mais ça ne fonctionnait pas nécessairement là, sur la glace par la suite.
Très d'accord avec toi, puis ça va être des belles visions. Écoute, j'ai vraiment hâte de voir la saison commencer, voir ce que ça va se classer. Et on va avoir des équipes en construction du côté de la métropolitaine qu'on sait. J'ai hâte de voir comment que les Pingouins vont réagir cette année.
Honnêtement, c'est clairement que le trade qu'ils ont fait, ils n'ont pas voulu s'assumer être en reconstruction, parce qu'on va en parler tantôt. Mais
les prédictions vont être le fun cette année encore. Puis, il ne faut pas oublier que chaque équipe qui était jeune l'année passée, comme les Sabres que tu as parlé tantôt, comme les Blue Jackets, comme pas les Penguins, mais les Rangers, ont un année de plus au compteur. Et j'ai hâte de voir si ça va être bénéfique. Les Sabres étaient vraiment proches en fin de saison l'année passée. J'ai l'impression que cette année, ils pourraient mettre la pédale au plancher et ça pourrait fonctionner. Mais dans l'Ouest, c'est la même chose. Donc, ça va vraiment être intéressant de voir. Tu sais, les Coyotes ont Ritazo depuis combien d'années, là?
Plusieurs, mais ça s'en
fait, honnêtement, là, cette année, j'ai vraiment aimé aussi ce que les Coyotes ont fait. J'ai vraiment aimé l'addition de les trois prochaines années au niveau de l'entraîneur puis de l'équipe d'entraînement. Donc, honnêtement, ça va être le fun. Les prédictions vont être cool pour vrai.
Jean-Michel qui mentionne viens-tu chercher ta bague samedi. Oh, c'est samedi qu'on peut l'avoir. Nice. Content de votre retour. Ben, content que tu sois là, Jean-Michel. Puis très hâte de reprendre le colis aussi avec le Cool FM au mois d'octobre. Sinon, je crois que c'est ton paternel qui est dans le chat aussi. Bon retour, les gars.
Hola.
Merci
hola, papa.
Beaucoup. On avait hâte. Là. Je veux dire, c'est le fun l'été. C'est le fun de profiter du semi-beau temps qu'on a eu. Mais parler de hockey, ça me manquait un petit peu. Donc, très content d'être de retour dans le podcast. Écoute, je pense qu'on a fait le tour du côté du sujet des Bruins. De toute façon, là, au niveau des bons, est-ce qu'ils vont être bons? Est-ce qu'ils seront pas bons? Comme j'ai dit, on va y aller avec ces prédictions-là dans les prochaines semaines. Sujet numéro 2. Un autre sujet qui a fait... Je ne dirais pas couler de langue, parce qu'on s'en doutait que ça allait s'en venir, mais même à ça, on dirait qu'il y a des gens qui ne le pardonneront jamais. Et c'est le dossier Logan Mailloux.
Oh yes.
Qui, étrangement, la LNH n'a pas encore confirmé l'information, ni le Canadien, mais selon Renaud Lavoie, il aurait eu son feu vert pour jouer dans la LNH cette année. On s'entend que je ne pense pas qu'il va jouer dans la LNH. Ça est pas mal direction Laval de ce côté-là. La question qui tue... Est-ce que c'est prématuré? Est-ce que tu es d'accord avec cette décision-là, même si elle n'est pas confirmée à 100%? Est-ce qu'il aurait dû ne pas jouer au hockey pour les 15 prochaines années, comme plusieurs le réclament? Quel est ton point de vue?
Écoute, on a parlé en long et en large quand c'est arrivé. Je comprends le père de famille, moi-même avoir une petite fille. Je comprends ce que ça peut faire au niveau de l'éthique de la ligue, de l'éthique des joueurs, de l'éthique de n'importe quoi. Oui, c'est quelque chose qui n'est pas pardonnable, on le sait. Puis je vais beau dire à tous mes chums, ouais, mais c'est juste une photo. Ouais, mais c'est pas ta fille, tu comprends pas, peut-être. Mais honnêtement, je pense que le joueur du talent, ça pardonne pas ce qu'il a fait. Je pense qu'il a fait une réhabilitation avec le Canadien qui s'est quand même bien passé. Chantal Maccabée a donné son accord. Toutes les femmes du Canadien ont donné son accord. Écoute, tu seras jamais pardonné probablement à sa place publique. Est-ce qu'il y en a qui ont fait des choses pires que lui? 100%.
Ben, on va en parler tantôt avec Équipe Canada Junior 2018, que ça semble être un dossier-là, mais on va regarder ça pour tantôt.
Exactement. Est-ce que les joueurs canadiens dans le temps ont fait pire que ça? Parlez-en à n'importe qui, parlez-en à Chris Chelios.
Kastetine, les Kastetine.
Exactement. Puis il y en a eu d'autres, puis il y en a eu d'autres, puis il y a eu des Québécois qu'on nommera pas parce qu'on va pas être dans le mal, mais c'est arrivé aussi. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Oui, c'est pas pardonnable. Oui, c'est quelque chose qui devrait pas se passer. Oui, c'est une erreur de jeunesse. Mais il aura besoin d'avoir les deux pieds à terre. Il va faire risquer toute sa vie, puis il va falloir qu'il vive avec ce qu'il a fait toute sa vie. Donc, je pense que ça, c'est déjà quelque chose de gros. Au niveau de talent, évidemment, c'est un joueur national probablement dans 2-3 ans. C'est un gars qui devrait jouer national. C'est un gars qui a le profil de jouer national. C'est un gars de 6 pieds 3, 220 livres. C'est un gars qui est bon offensivement, bon défensivement. Honnêtement, c'est un joueur qui devrait jouer le Canadien pour les 10-15 prochaines années dans 3 ans. Parfait, pas de problème avec ça. Mais moi, je pense qu'il faut tourner la page d'une façon pas sec. On tourne la page tranquillement, on voit comment ça va. Puis je pense qu'il va être suivi pas mal plus longtemps qu'on le pense par le Canadien puis par ses proches. Encore là, c'est une opinion publique, c'est une opinion de certaines personnes. Il y a plein de monde qui ne sont pas d'accord avec ça, puis je les comprends. Mais je pense que la Ligue nationale fait bien dans ce dossier-là. Sans dire que c'est pas grave, c'est dur de dire ces mots. Sans dire que c'est pas quelque chose qui est grave. C'est pas quelque chose qui. qui est non plus à l'extrême. Donc, moi, je pense que je le vois comme ça.
Ben, c'est ça, c'est que, tu sais, je pense qu'on, du côté de Mayu, on a accusé de plein de choses que tu sais, on est à côté de la plaque souvent avec Logan Mayu. Tu sais, on en parle comme si c'était un viol, comme si, c'est comme s'il avait tout fait ça contre... Ben, encore une fois, on essaie de pas... tu sais, on marche mal sur des gens en parlant de ce dossier-là, mais tu sais, je veux dire, comme j'ai dit, c'est pas Équipe Canada Junior 2018. Là. C'est pas ce que, comme les Tigres de Victoriaville ont fait après leur conquête de la Coupe, pas la Coupe Memorial, mais la Coupe du Président, là, quand ils l'avaient gagné là, à Québec là, durant la saison de la bulle. Ça aussi, ça a été très médiatisé. Puis d'ailleurs, il y a eu des développements aussi récemment de ce dossier-là. Mais, tu sais, je me dis, surtout la nouvelle ère du côté du Canadien avec Ken Hughes et Jeff Gorton, on veut tellement éviter la controverse. On a juste vu avec le fait qu'on n'a pas drafté Michkov. Puis ça, et tout, on va en reparler tantôt parce que c'est un autre dossier qui continue à faire couler de l'encre. Avec le fait qu'on n'a pas voulu toucher à Shane Wright non plus parce que, bon, on avait des rapports à gauche et à droite, des rumeurs en fait, là, que c'était peut-être pas le gars qui avait la meilleure attitude. Encore là, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? C'est pas moi en juger. J'ai jamais vu le gars, je le connais pas. Mais on semble vouloir vraiment y aller. On mentionne beaucoup ce mot-là, mais c'est vraiment ce que le Canadien tente d'implorer, mettre une culture saine dans cette équipe-là. Mm-hmm. Puis s'ils n'étaient pas convaincus à 100% que Logan Mayhew avait fait du progrès dans sa démarche là, pour revenir sur le droit chemin, il n'aurait pas amené un gars de même dans le vestiaire du Canadien. Oubliez ça. Non. Avec qu'est-ce qu'on essaie d'inculquer du côté du Canadien au niveau du vestiaire pour essayer d'avoir des joueurs qui des bonnes personnes en fait là, dans le vestiaire, on n'aurait pas fait un Mitch Miller avec le Canadien comme les Bruins ont fait. Là. On n'aurait pas essayé ça. Je pense que du côté du CH, puis comme tu as mentionné tantôt, ils ont probablement fait leur devoir avec les femmes qui sont dans l'organisation.
Ouais.
Probablement qu'ils ont leur demandé bon, est-ce que vous jugez qu'il a bien progressé ou s'il y a encore beaucoup de chemin à faire? Puis j'imagine j'ose croire qu'ils ont été consultés dans ce processus-là. Je ne peux pas croire, sachant qu'à quel point que Ken Hughes et Jeff Gorton ont l'air quand même très humains comme personne. Je ne pense pas qu'ils auraient fait une décision comme ça en donnant un contrat s'ils n'étaient pas convaincus que le gars a fait assez de chemin, là, qu'il a assez progressé dans son cheminement. Puis on verra bien. Peut-être que ce gars-là ne jouera jamais dans la LNH non plus. Je veux dire, jusqu'à maintenant, ça demeure quand même un espoir. Ça ne veut rien dire. Peut-être qu'il ne jouera même pas. Peut-être qu'il va finir comme étant un joueur de la AHL de carrière. Peut-être qu'il va finir en Europe. On ne le sait pas. Il y a tellement de profondeur en défensive du côté du Canadien. Ça se peut qu'il ne joue même pas un match à Montréal. Je serais surpris. Je pense qu'il y a quand même un bel avenir, comme tu as dit. Mais ce n'est pas sûr qu'il va jouer 10-15 ans dans la NHL. Ça se peut très bien qu'il finisse dans les mineurs ou qu'il finisse en Europe. Donc, tu sais, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Comme tu as dit, je pense pas qu'il faut battre du revers ce dossier-là puis dire « mission accomplie, Mayhew a eu son feu vert, on peut oublier tout ça, c'est pas ça le point. » Mais je pense qu'il faut quand même laisser une chance au gars de démontrer qu'effectivement, il a fait du cheminement. Et on verra bien pour la suite des choses, mais je pense pas qu'il mérite d'être banni à vie du hockey là, pour ce geste-là qui est très regrettable puis impardonnable non plus. Je pense que ça se fait juste pas. Mm-hmm. Mais c'est, comme tu as dit, c'est quand même pas l'extrême non plus. Il a pas violé la fille en tant que telle, il a pas menacé ou quel que ce soit. Il a pris une photo, ce qui est vraiment cave, mais je veux dire, c'est pas le pire crime non plus qu'il a fait. Je pense pas que ça mérite d'être banni à vie pour ça. Là.
D'accord avec toi.
J'espère que j'ai pas trop effoiré d'œuf dans ce dossier-là.
C'est pas un dossier facile.
D'en parler à chaque fois parce que tu sais, c'est comme je dis, je comprends totalement la frustration des gens qui ne veulent pas voir Mayhew jouer au hockey à la télé devant tout le monde avec qu'est-ce qu'il a fait. Mais, je veux dire, tout le monde a le droit à une deuxième chance aussi.
Ou bref. Bien d'accord avec toi. Puis, tu sais, il y a des deuxièmes chances qui se donnent, d'autres qui ne se donnent pas. Et comme tu dis, je pense que c'est le right decision. Puis, en même temps, je ne pense pas que des personnes comme Gallagher auraient pris ces jeunes-là en dessous de leur aile si ça aurait été aussi des... Si le jeune n'aurait pas fait l'effort, comme tu dis. D'accord avec ça.
On va revenir maintenant dans le côté hockey de la chose. Parce qu'on a discuté tantôt brièvement. Les Penguins de Pittsburgh qui refusent encore une fois de faire table rase et recommencer à zéro. On est allé chercher les services de Erik Karlsson. Donc Erik Karlsson qui quitte finalement les Sharks de San Jose pour se joindre aux Penguins avec le temps Crosby et Malkin. Une transaction à trois équipes. Le Canadien qui a été impliqué. Ils sont allés chercher, entre autres, l'attaquant québécois Nathan Légaré. produit du Drakkar de Bécomo et je pense que je joue à Val-d'Or aussi, si je ne me trompe pas, dans la LHJMQ. Mais bon, on ne parlera pas du Canadien pour l'instant. On va vraiment s'attarder du côté des Pingouins. Qu'est-ce que tu penses de cette transaction-là? Est-ce que c'était vraiment nécessaire d'amener Erik Karlsson, sachant qu'on a un gars comme Christopher Letang qui est là aussi? Parce qu'on l'a vu dans le passé, quelques deux gros défenseurs dans la même équipe avec Erik Karlsson, ça ne fonctionnait pas. Du côté des Sharks, quand Brad Burns était là, qui était en santé, c'est là qu'on a vu Karlsson qui a droppé considérablement. C'est sûr qu'il y a eu des blessures aussi, ça n'a pas aidé. Mais étrangement, quand Burns est parti la saison dernière, ben, il s'est claqué une saison de 100 points et plus. Donc, est-ce que tu penses que ça peut fonctionner avec un gars comme Christopher Letang qui pivotait déjà pas mal l'avantage numérique numéro 1 de l'équipe? Comment qu'on va gérer ça du côté des Pingouins?
Moi, je pense que oui, pour deux raisons. Christopher Letang. Et la deuxième raison, c'est parce que c'est Christopher Letang. Donc,
ça veut dire quoi, ça?
Ça veut dire que je pense que Letang entend un vétéran comme qui est présentement. Fin de carrière, quand même, on sait, un bon contrat pour les, quoi, c'est les quatre prochaines années encore, je pense. Je suis pas trop sûr de mon deal, là, mais.
On va aller voir ça.
Donc, je pense que Christopher Letang, on sait qu'il est fatigué, on sait qu'il va encore bien, mais on sait que plus la saison avance, plus c'est difficile au niveau des commotions cérébrales, au niveau de l'épuisement. Et je pense qu'Erik Karlsson va apporter une offensive que les Pingouins n'avaient pas dans les dernières années. Oui, Crosby est là, oui, Malkin est là. Malkin vieillit, Crosby vieillit. Le temps vieillit aussi. Mais je pense qu'un gars qui a quand même donné 100 points est passé aux Sharks, qui ont fini bon dernier dans l'Ouest. Là. Donc, ça va probablement aider au niveau de l'avantage numérique. Ça va aider aussi pour l'attaque à 5. Ça va aider pour la relance, parce que s'il y a quelque chose que Karlsson fait super bien, c'est la relance. Même si une fois sur quatre, il met la palette sur la palette de l'autre bord. Mais il peut aller la chercher rapidement. Donc ça, c'est quelque chose qui fait une grosse différence. Puis du côté des Pingouins, ce que j'aime, c'est qu'on lâche pas la serviette. On a encore Crosby pour les quatre prochaines années. On a encore Malkin pour les trois prochaines années. On a encore le temps pour les quatre prochaines années, je pense, c'est ça?
Crosby, il reste deux saisons, cette année et puis l'an prochain. Evgeny Malkin, il lui reste trois saisons. Et pour répondre à ta question, pour Chris Letang, il reste encore cinq saisons.
Cinq saisons, en tout cas, je ne l'aime pas partout. Fait qu'absolument, je trouve mon cap friendly, j'aurais dû le faire. Mais en tout cas, bref. Juste pour vous dire que moi, je pense que c'est bon pour l'organisation des Pingouins. C'est des joueurs qui sont flamboyants quand même, ça va aider. Et Karlsson peut apporter dans une équipe avec un gros leadership, avec Letang, Malkin et Crosby. Va rentrer dans les rangs, va apporter son lot de leadership de son côté. Et pour une fois, Karlsson, depuis les sept dernières années, pense gagner la Coupe Stanley. Pense à pas gagner la Coupe Stanley avec Ottawa. Pense à pas gagner la Coupe Stanley avec les Sharks non plus. Et là, je pense qu'en se disant qu'il joue probablement avec deux des trois plus grands joueurs des 20 dernières années, probablement une chance encore d'un dernier push. Il ne faut pas oublier l'organisation des Pingouins. Ont de l'argent de libre. Donc, le cap salarial n'est pas plein. Donc, ça va probablement aider les Pingouins à chercher des joueurs autonomes si on a besoin en milieu de saison ou proche de séries éliminatoires.
Moi, ce que j'aime beaucoup du côté des Pingouins, c'est qu'on n'a pas tant donné grand-chose. Dans le sens que...
Grand Lune.
On a donné Grand Lune qui, bon, je veux dire, c'est pas la fin du monde. On était à chercher Rem Pitlick, fait qu'à la limite, c'est quand même pas si pire.
Mais non, choix de première ronde.
On a un choix de première ronde pour aussi. Mais sinon, on n'a pas donné tant que ça. On a réussi à partir de Petrie. Je veux pas dire Karlsson. C'est sûr que c'est deux types de défenseurs différents, mais au niveau de l'offensive, c'est sûr que Karlsson va apporter plus qu'un Jeff Petrie.
Ouais.
Non, puis on était cherché.
Casey DeSmet, on n'en parle pas, mais on se débarrasse d'un gardien de but qui n'était peut-être pas dans notre mire pour les prochaines années. Mais je pense que là, la prochaine étape du côté des Pingouins, c'est chercher un bon gardien de but. On semble avoir confiance encore en. Je ne me souviens pas son nom, là, j'ai un blanc. Là.
Christian Jerry,
qui a eu une difficile saison l'année passée. Mais moi, je pense qu'on a un lapin dans notre chapeau au niveau des Pingouins. On va aller probablement chercher un gardien de but mieux établi que ça. Donc, j'ai hâte de voir
ce qu'on fait. À date, on mise sur un duo de Jerry, puis on était chercher Alex Nedeljkovic. Donc, est-ce que Nedeljkovic est un upgrade sur Casey DeSmith? On verra. Mais en même temps, je pense que la clé, c'est plus qu'on a réussi à sortir Jeff Petrie, on a réussi à sortir Grand Lune, des gars comme ça. Maintenant, on va parler du côté du Canadien, parce que plusieurs voient le Canadien comme le grand gagnant de cette transaction-là pour une raison. On a réussi enfin à se départir du contrat de Mike Hoffman. Donc, on a réussi. À la limite aussi, Rem Pitlick, mais je détestais quand même pas Rem Pitlick, mais avec les jeunes qui s'en viennent, je pense qu'il fallait faire de la place à l'attaque du côté du Canadien, puis c'est exactement ce qu'on a fait en réussissant à se départir du contrat de Hoffman, entre autres. Puis, tu sais, oui, c'est du salaire également. On obtient du salaire un petit peu, mais on se quand même un peu de place. On va chercher un choix de deuxième ronde en 2025. Puis on sait que le Canadien, à partir de 2025, devrait commencer à être compétitif. Donc, c'est quand même des choix qui peuvent être dépensés à la date limite des transactions, par exemple, pour aller chercher les pièces manquantes là, pour passer au prochain niveau. Nathan Légaré, bon, c'est un espoir qui, présentement, devrait commencer à Laval. On va voir qu'est-ce que ça va donner. C'est un très bon marqueur de but dans la LHJMQ, mais tarde un peu là, à trouver son rythme là, dans la Ligue américaine. Il faut dire qu'il n'y a pas eu non plus de... Il n'y a pas eu d'avantage numérique beaucoup dans la Ligue américaine. Il n'y a pas eu non plus beaucoup de temps dans le top 6. Donc, peut-être qu'à Laval, c'est ce départ-là qu'il avait besoin pour débloquer. On verra bien. Évidemment, on va chercher Casey DeSmith. Là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec DeSmith? Parce que, évidemment, Jake Allen est toujours là. Samuel Montembeau est toujours là. On est allé chercher Jeff Petrie, qu'on a reflippé justement tantôt. On a parlé un petit peu là, avec les Red Wings à Détroit. J'étais un petit peu déçu du retour, mais en même temps... Est-ce qu'il y avait tant de valeur que ça, Jeff Petrie? C'est ça la question qu'on se pose. Puis on vient de se rendre compte qu'il n'y en avait peut-être pas tant que ça. 15 ans qui sont allés chercher.
Une grosse saison de Kevin Goy. Vraiment pas connu de
bonne saison. En 2025.
Vraiment pas chaussure, pas vraiment une bonne saison avec les Pingouins. Pour Rem Pitlick, c'est de valeur parce que notre REM est prêt ici à Montréal. Fait que c'est pour ça qu'on l'a échangé. On a déjà un autre à Montréal. REM, Rem Pitlick. Ouais, c'est bon. C'est donc,
wow.
Je vous dirais ça, il a marché le premier jour. Il a marché le premier jour, puis deux, trois journées après, il ne marchait plus comme Rem Pitlick, c'est la même affaire. Donc, donc, on en parle comme ça. Non, écoute, je pense qu'on a eu quand même un bon retour, mais je pense que la clé, c'était Mike Hoffman. Je pense pas que le 15e pouvait se permettre de commencer la saison avec Mike Hoffman. Oublie ça.
Et, ben, en fait, il aurait pu se le permettre, mais avec qu'est-ce qui pousse derrière, tu sais, c'est plus ça. Je pense qu'il ne pouvait pas prendre la place d'un jeune. Si le Canadien n'avait pas de relève, qu'il n'y avait absolument rien qui s'en venait, oui, il aurait pu se le permettre parce qu'il reste une année. Mais là,
pas dans le plan de
Colton. Il faut que tu y trouves du temps de jeu. Raphaël Harvey-Pinard, il ne redescend pas en bas, ça, c'est sûr. Il y a plein d'autres joueurs aussi qui peuvent se tailler une place. Emil Heinemann, ça peut être une surprise aussi au camp. Là, il faisait très bien en ligne américaine. Lors de son passage à Laval. Fait que, il faut laisser une chance à ces jeunes-là de se tailler un poste. Puis présentement, Mike Hoffman prenait la place d'un de ces joueurs-là. Puis, avec ce qu'il nous a donné l'an dernier du côté du Canadien, on ne peut pas dire que c'était très acceptable, surtout pour le salaire qu'il faisait. Fait que réussir à sortir ça, maintenant il va aller du côté des Sharks, il va jouer probablement dans le top 6 parce que San Jose n'a pas tant grand-chose à l'attaque. Peut-être que ça peut le relancer, mais du côté du CH, on n'avait pas de place là, pour un Mike Hoffman la saison prochaine.
Oh, ça va faire du bien de laisser la place aux gens. Je pense que le plan de Hughes Gorton va vers là. Et Hoffman faisait vraiment pas signe. D'ailleurs, on va en parler pas mal du Canadien dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, mais on a d'autres joueurs aussi qui vont forcer de partir si on veut continuer de monter les échelons. Mais j'ai hâte de voir. Moi, j'ai pas haï ce trade-là, honnêtement. Ça a fait de la place, ça a fait du bien. On en a parlé. Et je pense que les fans vont être un petit peu plus enjoués la prochaine saison pour ça.
Explore, lui, qui mentionne de son côté que ça va planter pour les Pingouins. J'ai hâte de voir parce que, écoute, les Hurricanes vont être encore forts cette année. Les Devils, ils ont surpris l'an dernier, mais ils vont être encore meilleurs cette année. Les Rangers vont être encore meilleurs cette année. Washington, je m'attends à drop, par exemple, de leur part. Là, je pense que c'est peut-être le début de... Pas le début de la fin, mais pas loin du côté de Washington. Philadelphie, ils sont en reconstruction solide. Là. Jackets, ça devrait... Les Jackets devraient progresser un petit peu cette année, mais je pense pas qu'ils sont encore dans le calibre là, du côté des Rangers, Hurricanes et compagnie. Donc, j'ai comme l'impression que les Pingouins, ça va être un peu comme l'an dernier. Ils vont être sur le bord, mais ils vont peut-être en manquer un peu. Surtout si, en plus, dans la division Atlantique, il y a peut-être possiblement 5 équipes qui vont se qualifier pour les séries. Fait que ça laisse encore moins de marge de manœuvre à une équipe comme Pittsburgh là, qui ont quasiment pas le choix de viser le top 3 s'ils veulent vraiment faire les séries. Puis je suis pas convaincu qu'ils vont réussir à le faire avec les équipes qui sont devant eux.
Ça va prendre un Tristan Jarry en feu.
Prochain sujet, puis ça, je suis vraiment content qu'on en parle parce que, écoute, ça fait des décennies qu'on souhaite ça pour les filles. La PWHL qui prend enfin forme avec 6 équipes. Donc, on a une équipe du côté de Montréal, une du côté de Toronto, une Ottawa, une Boston, une New York, puis une Minnesota. On fera pas le tour de... Parce que les équipes avaient une fenêtre là, pour signer 3 joueuses là, pour, avant le repêchage, dans le fond, pour avoir une fondation là, de cette équipe-là. Et du côté de Montréal, on a frappé fort, mais solide. Là. Pour vrai, là, ça donne le goût de suivre ça. Là. Pour vrai, là...
Ah, oh, ben oui, certain.
Écoute, on a signé Marie-Philippe Poulin, qui est la meilleure joueuse au monde. Et fierté Beauceron, surtout pour ma part. On a signé Anne-Renée Desbiens, qui est la meilleure, une des meilleures gardiennes, c'est pas la meilleure gardienne de but au monde présentement.
Ouais.
Et on a signé également Laura Stacy, qui est la conjointe de Marie-Philippe Poulin et qui, ouais, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est une très bonne joueuse aussi. C'est sûr qu'elle n'a pas eu les statistiques à tout casser puis les buts marquants que Marie-Philippe Poulin a inscrits, mais c'est quand même une très bonne joueuse, là. Donc, c'est pas à négliger.
Plus jeune ici, elle va jouer probablement plus longtemps que Marie-Philippe. Donc,
exactement. Et écoute, je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux que ça pour avoir les bonnes fondations du côté de la formation Montréal. Puis en plus, c'est Danielle Sauvageau qui va être l'entraîneuse, mais la DG de cette équipe-là.
Mm-hmm.
Très bon départ. Je pense qu'on est en bonne business du côté de Montréal.
Ouais, puis c'est le fun. On en parlait l'année passée. On en parlait dans notre deuxième saison de podcast en 2023, en 2022, que c'était compliqué pour les femmes d'avoir du divisionnement puis qu'on n'en parlait pas assez. Mais là, enfin, on a un deal. Et j'ai l'impression que la NHL va être en arrière de ça aussi, selon les dires de certaines filles qui ont passé des entrevues un peu partout. Donc, je suis vraiment content. Ça va redorer un petit peu aussi la diversité à Montréal. Je pense que les 6 équipes qui vont être là présentement, c'est des 6 gros marchés. Minnesota, c'est un très bon marché de hockey. C'est une crowd qui est le fun à faire jouer. Puis j'ai hâte de voir si les filles vont réussir à faire un peu. On a aussi rentré qu'un bon salaire quand même. Un salaire compétitif de 90 000 par année pour commencer. Vous allez rire de nous autres parce que c'est probablement ceux qui gagnent par chiffre dans le national. Mais pour les femmes, c'est un pas de géant vers un salaire.
En même temps, je comprends le point qu'on est encore loin de ce que les joueurs de la LNH font, mais on s'entend que c'est pas la même business.
Ah non, du tout.
Mais moi, juste le fait qu'ils vont être capables de gagner littéralement leur vie avec le hockey. 90 000, hey, c'est même pas mon salaire, je fais même pas ça par année. Puis je suis capable de vivre. Fait que j'imagine qu'eux autres vont être capables de vivre aussi avec 90 000.
C'est pour ça que je te dis.
Moi, c'est juste le fait que je pense que la moyenne, c'était 50 000 par contre, mais qu'il y avait des joueurs qui pouvaient gagner 80, d'autres un petit peu plus bas. Mm-hmm. Mais 50 000, encore une fois, c'est même pas mon salaire. Fait que tu sais, je veux dire, ils vont être capables de gagner en masse leur vie avec ça. C'est sûr que s'ils veulent faire autre chose pour. Parce que je pense que c'est juste une vingtaine de 24 games qu'ils jouent cette année, puis après ça va passer à 32 ou quelque chose, ouais, du genre. Mais tu sais, ils vont être capables de se concentrer vraiment sur le hockey, qui n'auront pas besoin de faire 3-4 jobs à travers pour arriver. Moi, c'est là que je vois la grande victoire du côté du hockey féminin. C'est que les filles, maintenant, les filles qui vont commencer à jouer 8, 9, 10 ans, 11, 12, 13, 14 ans, ils vont faire leur tour dans la NCAA par la suite, ou peut-être même prendre la voie universitaire ici, parce que les Carabins aussi à Montréal là, qui sont là. Ben, maudit, ils vont être capables après ça d'avoir la chance de jouer dans une de ces équipes-là, puis gagner leur vie avec le hockey, comme les hommes sont capables de faire. Pas le même salaire, malheureusement, mais c'est un excellent début. Je pense que. Puis, tu sais, là, on parle de 6 équipes, mais c'est clair que ça va grossir. Puis, à un moment donné, il va y avoir plus d'équipes que ça. Donc, plus d'équipes égale plus d'opportunités pour les filles.
Exact.
Donc, non, pour vrai, c'est vraiment une belle victoire du côté du hockey féminin. Et puis, ça, c'est peut-être ça que ça va prendre, par exemple, pour le Canadien, pour être meilleur. Là. Je veux dire, si tu vois l'équipe féminine qui remporte des championnats à gauche puis à droite, ça va peut-être les piquer un petit peu, puis on va vouloir faire la même chose là, du côté du Canadien. J'espère que ça va être une source de motivation, mais j'espère surtout que les gens vont se déplacer puis aller encourager ces filles-là, parce que tu sais, c'est sûr qu'il y a des gens qui disent « Ouais, mais le hockey féminin, c'est pas pareil, c'est pas le même style de jeu, c'est pas aussi rapide, mais c'est du hockey pareil, puis c'est un produit local, il y a des joueuses locales, il y a des joueuses qui ont joué aux Jeux olympiques, puis on parle même pas des autres qui ont signé ailleurs. Là. Sarah Nurse est là également. Je pense qu'elle signe avec Toronto.
Oui, Toronto.
Larry Knight qui va jouer avec Boston. Fait que, il va avoir des très beaux talents. Puis il va avoir d'autres à découvrir aussi dans les prochaines années.
Je confirme avec Minnesota, on n'en parle pas. Abby Rogue avec New York. On va avoir aussi Brian Jenner avec Ottawa. C'est un beau produit qu'on va avoir, comme tu dis. Puis honnêtement, c'est qu'en développement, anyway. Donc, si on peut avoir un sport de la poule, on peut avoir un sport de la Ligue nationale, on peut avoir un sport de la télévision, on peut avoir un sport des billets de saison, des billets qui vont se faire. Écoute, les filles vont jouer 24 games, c'est mieux que zéro. Ils vont jouer 32 games dans 2 ans. Ils vont peut-être augmenter à 10 équipes. Il reste juste que ça va être le fun d'avoir ça. Ça va être un produit différent. C'est peut-être que les changements vont changer aussi les réglementations. Peut-être qu'un jour, la mise en échec va être acceptée. Peut-être qu'un jour, quelque chose qui va se faire aussi. Il ne faut pas oublier que le hockey évolue. Nous, on évolue. La Q évolue. La Ligue nationale évolue. La OHL évolue. La PWHL va faire la même chose. Là. C'est nouveau. C'est un nouveau produit. Encouragez-le. Ça va être parfait.
Donc, la semaine prochaine, c'est le repêchage. Les équipes vont compléter, je crois que c'est le 18, le repêchage de la PWHL.
Si vous voulez voir les Québécois, ça.
Donc, on va avoir une meilleure idée du roster des six formations, en fait. Puis comme tu as dit, pas mal sûr qu'il va y avoir une couple de Québécoises qui vont se joindre également à la formation de Montréal. À date, il n'y a pas de nom encore à aucune des équipes. Donc, ça va être à... Mais il y en a plusieurs qui espèrent que ça va être le retour des Canadiennes de Montréal, ce qui serait un bon flash. Je pense que ce serait cool qu'on ramène cette équipe-là. Eux qui avaient joué, si je ne me trompe pas, dans la CWHL il y a quelques années. C'était une ligue, je pense, canadienne. Et Marie-Philippe Poulin avait joué pour cette équipe-là. Ah. Hillary Knight s'était amenée également à Montréal. Donc, on avait un duo de Marie-Philippe Poulin et de Hillary Knight. Donc, c'était vraiment du bonbon, là, ces deux-là. Fait que j'ai hâte de voir ça va être quoi. L'entraîneuse non plus n'a pas été nommée, mais Danielle Sauvageau semble avoir dit que ça va être une femme. Donc, j'ai hâte de voir vers qui qu'on va se pencher pour entraîner cette équipe-là. D'ailleurs, il y a un autre Québécois aussi qui est dans ce circuit-là, qui a été nommé DG à New York, Pascal Daou, là, qui va être le DG du côté de la formation de New York. Donc, un autre Québécois qui va être dans ce circuit-là. On voit qu'est-ce que ça va donner. J'espère juste que ça va durer cette fois-ci, mais les fondations ont l'air quand même assez solides cette fois-ci, en espérant que cette fois-ci, ça va être la bonne, parce qu'il y a eu quand même quelques tentatives là, de ligue féminine, mais que ça... ça n'a pas fonctionné du tout, mais là...
J'ai l'impression qu'on a plus au sérieux le fait qu'on a un pré-draft, un draft, on a des équipes établies. Il manque les noms. D'ailleurs, les noms, il y a plein de votes qui se font sur Internet pour les noms. Il y a plein de rumeurs qui courent. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Mais écoute, juste le fait que Marie Poulin a dit en entrevue qu'elle avait parlé avec Toronto, puis que dans sa tête, c'était sûr qu'elle allait faire Toronto. C'est parfait. Donc, les rivalités vont se faire, puis... Il y a des réalités qui sont naturelles aussi. Les Larry Knights avec Marie-Philippe Poulin, ça va être deux des meilleures joueuses. Donc, ces deux filles vont se battre un pour un, dent pour dent pendant les matchs. Et j'ai hâte de voir ça. Je pense qu'on a droit à avoir droit à une belle ligue.
Puis j'ai hâte de voir aussi si ça va élargir un peu comme dans la LNH là, au niveau international. Parce qu'il y a des joueuses aussi en Finlande qui sont quand même bonnes. Il y a des joueuses en Suède. Il y a des joueurs un peu partout. Est-ce qu'on va se limiter seulement en Amérique du Nord pour l'instant? J'ai hâte de voir. Mais j'ai l'impression que dans quelques années, là, il va y avoir des joueuses là, d'un peu partout dans le monde qui vont se greffer à cette ligue-là, comme c'est le cas avec la NHL, là, en fait.
Ouais, je suis d'accord avec toi.
Parlant d'international, parlant de joueurs qui ne jouent pas en Amérique du Nord présentement, qui fait flipper bien des gens présentement, notre cher ami Matvei Michkov, qu'on en a parlé beaucoup là, avant le repêchage de la LNH, c'est bien ça.
La déception
pas bien,
de Maxime.
Ça, ouais.
Il n'a pas mais encore dormi cet été, gros de ça.
Non. J'en fais encore des cauchemars. J'ai pas raccroché mon chandail du Canadien, d'ailleurs, sur le mur. Il est toujours serré quelque part. Et d'ailleurs, fun fact, ce mercredi, Caden Gourley, qui va être de passage en Beauce,
Il le français en Beauce.
Il va être à Vallée-Jonction, là, au truc de Ford. Là. Il va être là pour rencontrer les gens, signer les autographes, et je vais en profiter pour essayer de faire signer un chandail que j'ai du Canadien.
Certainement. Bonne idée.
Seule chose qui est de la boîte un petit peu, c'est qu'ils font ça un mercredi en plein milieu de la semaine. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Hein, c'est pas mal la seule chance qu'on va avoir de le rencontrer. Donc,
il y a Ryan Backer cette semaine qui est allé du Canadien aussi à, je pense, un aréna.
Midget 3, je pense.
Midget 3, je pense, c'est ça, ouais. Quelque chose comme ça. Donc, c'est le fun. Les jeunes visitent le paysage, vont voir les équipes de hockey, vont voir le hockey. C'est le fun. Je suis content de voir ça.
Mais bon, pour revenir à nos moutons, pour revenir à notre cher ami Michkov, écoute, son équipe a quatre matchs de jouer dans la KHL. Il a été laissé de côté trois fois. Et le match qu'il a joué, il a joué 6 minutes. Bienvenue dans la KHL, mon homme.
Ouais, ça fait penser à qui? Quel ancien joueur du Canadien a fait la même chose à sa dernière année que la KHL?
Romanov.
Alex Romanov.
Mais bon, là, c'est sûr que y a plein de choses qui se mettent à circuler sur les réseaux sociaux en raison de ça. Moi, ce qui me tente un petit peu dans ce dossier-là, c'est que je le sais que la KHL, c'est pas une ligue qui font développer beaucoup de jeunes. Puis tu sais, il y en a pas beaucoup là, des joueurs de 18 ans qui ont réussi à avoir beaucoup de temps de jeu et tout ça. Je peux comprendre un peu l'approche du SK, qui est déjà à la base une équipe qui fait jouer beaucoup de vétérans. C'est un gros marché. Fait qu'on n'est pas là pour développer des jeunes, on est là pour gagner. Donc, c'est un peu ironique parce que Michkov était très bon dans les matchs pré-saison. Fait que je comprends pas trop. Mais bref, on va laisser ça à deux pour l'instant. Mais ce qui me gosse un petit peu dans ce dossier-là, c'est qu'il y a un autre joueur russe qui est dans cette formation-là, qui est plus jeune que Michkov. C'est le meilleur espoir russe pour le prochain repêchage. C'est Ivan Demidov, qui, lui, a joué 3 matchs sur 4 et qui a eu plus de temps de jeu que Michkov. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? Est-ce qu'il y a Anguille Souroche? Est-ce que les fameuses rumeurs qui circulait à gauche puis à droite à son sujet, comme quoi que c'est pas le gars qui a la meilleure attitude, que c'est pas un très bon coéquipier. Est-ce que c'est véridique? Est-ce qu'on voit ça plus grand que qu'est-ce que c'est réellement, peut-être aussi. Mais il y a juste ce bout-là, moi, qui me gosse un peu. C'est de voir un joueur plus jeune que lui avoir plus de temps de jeu. Ça me tente un petit peu du côté de Michkov. Et il ne faut pas oublier aussi que l'option d'un prêt est disponible. C'est ce qui est arrivé l'an dernier. Il a été prêté à la formation de Sochi. C'est pas mal là qu'il a joué sa saison là, dans la KHL. Mais visiblement, du côté du SKA, on ne veut pas lui donner du temps de jeu de qualité. Et là, les fans des Flyers commencent à capoter ses réseaux sociaux. Et avec raison, parce que c'est plate. Je veux dire, tu sais, je peux comprendre le Canadien, finalement, de ne pas repêcher ce gars-là parce que pour son développement, ça fait quoi? Là, le gars ne joue pas 3 games sur 4. Quand il joue 6 minutes. Comment tu veux qu'il se développe, le gars? Fait que tu sais...
C'est quelque chose de commun en Russie, par contre. Puis le SKA de Petersburg fait souvent ça. On boude les joueurs repêchés qui vont dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale. Et c'est dommage, ouais. C'est dommage parce que c'est un talent naturel. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, que les phrases qu'il fait ou ce qu'il fait pas, de la grosse tête qui ou qui est pas, ça reste que c'est un joueur de talent. Probablement un joueur de concession. Mais présentement, là, tout ce qu'on voit, c'est catastrophique au niveau de la Russie. Là, c'est... J'espère que ça n'amènera pas des problèmes au niveau du jeune. Quand même, je ne souhaite pas de malheur à personne dans la vie. Mais c'est vraiment pas, une bonne chose qui se passe présentement. Et Bramanov a fait la même chose. Puis ça avait été fait des manchettes aussi dans le temps. Là, je pense que c'est pire parce que Michkov est probablement le meilleur espoir depuis très longtemps de la Russie.
Ben, donc, c'est surtout que c'est pas un choix top 10 total. Mettons, Romanov, là, c'est un choix de deuxième ronde. On savait qu'il était quand même bon. Il avait été bon au championnat du monde d'hockey junior. On savait qu'il avait du talent. Ouais. Mais ça reste quand même un choix de deuxième ronde. Fait qu'on a pris un Kiev, c'est correct. Mais là, quand tu repêches le gars 6-7e, puis tu vois ça qui arrive, moi, Daniel Brière, je serais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Faites-les jouer, bon tard.
Ah oh, oui, c'est ça, sûr.
C'est un peu désolant, puis c'est triste de voir ça comme ça, parce que ça, c'est pas bon pour personne. Là, je veux dire, c'est pas bon pour les Flyers, c'est pas bon pour le jeune, puis c'est même pas bon pour le SKA, parce que même le SKA se prive eux-mêmes d'un très bon joueur juste pour des raisons, je dirais pas politiques, mais des raisons de principe. J'espère vraiment que Michkov va être prêté à une autre équipe et qu'il va être capable de jouer plus que ça cette année, parce que sinon, être un partisan des Flyers, je commencerais à t'inquiéter un petit peu.
Non, je suis d'accord avec toi, puis c'est vraiment dommage parce que, oui, on perd de talent, comme tu dis, puis oui, on manque de visionnement aussi pour le jeune, manque d'expérience. Rien n'est bon pour rien présentement. On a l'air d'une méchante gang d'épais en Russie. Déjà qu'on a une gang d'épais pour d'autres raisons, là, c'est encore pire au niveau de la Ligue nationale. Puis je trouve ça juste plate pour le jeune. Moi, je pense aux jeunes là-dedans qui ne méritent peut-être pas que ce qui arrive présentement, puis malgré tout ce que tout le monde dit, puis tout le monde affirme sur lui, c'est quand même probablement d'être une bonne. C'est au moins finir la bonne saison, donc c'est juste plate pour lui.
Explore qui mentionne qu'il reste patient encore avec lui. C'est vrai, tu es un fan des Flyers.
Ouais.
Ben écoute, c'est sûr que c'est pas la fin du monde. Je veux dire, c'est 4 matchs. Mais c'est juste. Ça part mal, mettons. Ça part mal la saison quand tu vois qu'il est scratch 3 fois sur 4 et qu'il joue 6 minutes, la seule game qu'il joue. Mettons que ça donne une petite douche d'eau froide. Là. C'est pas mal sûr que c'est pas ce que les gens avaient anticipé à son égard. Là. Je pense qu'on s'attendait à ce qu'il. Pas nécessairement qu'il brûle la KHL, mais qu'il soit un peu une des vedettes cette année de cette ligue-là. Mais on va voir ce qui va se passer durant la saison. Ça vient de commencer, donc il peut se faire prêter. Le SKA peut peut-être changer d'idée et le faire plus jouer. On verra bien. Mais mettons que c'est un faux départ dans son cas.
Oh, très gros faux départ. Ouais.
Écoute, on va parler maintenant de choses un peu plus positives et ça va se passer dès le premier mois. De la saison de la LNH, parce qu'on va avoir une classique héritage, Stéphane, en deux équipes, la Battle de l'Alberta, qui va être là. Donc, un match extérieur le 29 octobre entre les Flames et les Oilers. Honnêtement, je trouve ça bien qu'ils mettent ça si tôt dans la saison. Je trouve que ça va bien starter la saison. Tu sais, je veux dire, oui, les premiers matchs, c'est tout excitant, là, la saison commence et tout, mais tu mets un événement comme ça, un aussi gros match que ça également. Oh. Je trouve que ça part fort. Je trouve que ça va être une bonne game à regarder.
Une bonne game à regarder, puis c'est surtout que ça va être le fun. C'est en début de saison. En Alberta, tous ceux qui restent là-bas, nos millions d'auditeurs qui nous écoutent là-bas, ça fait déjà moins 40 avec 50 pouces de neige au mois d'octobre. Donc non, ça va être le fun pour vrai, puis je suis vraiment excité de voir comment ça va aller. La Battle of Alberta, c'est toujours bon, malgré que les Flames sont peut-être un petit peu put, mais ça va être le fun de voir les Oilers. Puis ce que j'ai aimé, c'est l'entrevue avec Kadri, puis il y avait McDavid, McDavid dit, ah, ça va être comme si on jouait dans le temps. Je sais que c'est cliché, mais c'est vraiment ça. C'est vrai, je pense que pour les joueurs, ils adorent faire ça. Je pense que c'est quelque chose qu'ils aiment faire. Et c'est toujours plus fun d'avoir un masque que ça que, mettons, exemple, Flyers, New Jersey. Là. On s'entend. Là. C'est pas que je déteste les deux équipes, mais c'est juste que c'est
ben, plus... C'est quand même une semi-rivalité entre les deux équipes. Fait que c'est pas exact. Mettons, Arizona, genre Boston, là, mettons, ça serait assez ordinaire comme game. Parce ouais, que c'est deux équipes qui ont fuck all une rivalité ensemble. Puis les Browns sont là, les Coyotes sont en bas. Puis tu sais, tu parlais tantôt des Flames qui ça faisait pout. Mais maintenant que M. Sutter est parti, ça va peut-être relancer une coupe de joueurs, par exemple.
Ça y est, c'est parti, ça y est. C'est pas vrai.
C'est vrai.
Comment a donné le point à Huberdeau cette année? 76, je pense. J'ai hâte de voir ça. Mais ouais. Anyway, bref, on va voir comment que ça va aller. Il ne faut pas oublier aussi, j'en ai pas parlé tantôt avant le podcast, mais il ne faut pas oublier la super confrontation du 1er janvier entre...
Je te laisse y aller,
parce que
j'ai un blanc.
Le Kraken de Seattle contre les Golden Knights.
Oui, les deux équipes d'expansion.
Donc, je pense que c'est un bon coup de publicité pour les deux.
Un bon flash, pour vrai. Je déteste vraiment pas flash ça.
Avec.
Ça aussi, les deux équipes d'expansion sur un match extérieur, là, pour vrai, ouais. c'est un bon flash.
Ouais, non, la nationale a travaillé fort. Puis je checkais les dates de dévoilement des choses spéciaux cette année au niveau de la nationale. Puis je trouve ça pas pire. Tu sais, le 20 janvier, tu vas me dire, c'est une journée bien normale, il fait frais, moins 85 dehors, puis on sort pas. Mais c'est le
ski. C'est soit ça ou il fait plus 2 puis il mouille, puis c'est glacé partout.
Bienvenue au Québec. Donc, c'est le Scotiabank Hockey Day. Vous allez me dire, c'est quoi cette affaire-là? C'est que les 7 équipes canadiennes sont en action en même temps. Ça arrive une fois par année. Donc, c'est quand même cool de le savoir. Ils vont aussi mettre les étoiles Honda à Toronto cette année. Donc, on oublie que c'est Toronto cette année, le 2 et 3 février.
Là, on va tirer des rondelles dans des pelles. C'est quoi qu'on va faire comme innovation?
On va peut-être tirer des
postes
qui viennent Tower jusque dans l'aréna en bas. Je sais pas. On va faire quelque chose de différent. Et non, honnêtement, c'est le fun. Puis je trouve qu'il y a des beaux flashs cette année. Je pense que c'est une belle classique. Puis hivernal, ça va être cool de voir les deux organisations. Tu sais, les Golden Knights sont champions de Coupe Stanley. Les Kraken, ils viennent d'arriver, ont connu quand même un bon
parcours.
Saison, un bon parcours en série. Donc, c'est deux équipes compétitives. Tu sais, c'est pas, exemple, les Sharks contre les Kings de Los Angeles, mettons. Ça ferait
les Sharks contre les Blackhawks.
Ouais, c'est ça, ça. Malgré que les Blackhawks devraient être pas pire cette année. Là. Je sais pas si c'est quoi le prix du billet pour aller voir...
Parenthèse, puis je vais faire une parenthèse aussi avec le soccer, avec Messi, mais ça, je trouve ça vraiment cap. Je comprends le move. Écoutez, je comprends le move. Tu as le meilleur joueur de soccer ever qui s'en vient dans ta ville. Tu sais que le monde va vouloir le voir jouer, fait que tu gonfles les prix, mais pour vrai, je trouve ça ridicule. C'est un manque de respect pour les partisans, je trouve.
Ça monte, c'est 2 500$ le billet, man.
C'est...
On va aller voir Connor, la légende. Donc, son premier match en carrière. J'espère qu'il ne sera pas blessé après une demi-game.
Ça va là. Verrais-tu, premier chiffre, il se reste
2 500$.
Parce qu'on s'entend que chez les Blackhawks, ça part Pédard. Il n'y a pas grand-chose à regarder cette année. Là. Je veux dire, c'est pas le gros char, on va se le dire.
Oui, effectivement. Non. En tout cas, on va voir comment ça va aller. Mais en tout cas, on va avoir une belle saison cette année, puis je suis content. Puis je pense que la chose que le monde va regarder le plus cette année, c'est le record au circuit de Wayne Gretzky. Est-ce que Ovechkin va s'effondrer cette année avec 23 buts ou va réussir à en faire encore 40 pour le battre l'année prochaine? Donc, il en manque 72 pour l'égaler, 73 pour le battre. Donc, ça, c'est une milestone que je pense que tout le monde va regarder. Est-ce que Ovechkin, avec son équipe de vétérans et de pas grand-chose avec Washington cette année, malheureusement, il n'y a plus grand-chose là-bas, va réussir à battre ce record? Puis, c'est drôle, hein, ils ont fait une entrevue avec Ovechkin en Russie cet été. Et même lui disait que c'est encore un record qu'il trouve difficile à atteindre. C'est quand même pas facile de scorer 73 buts en 2 saisons ou en 3 saisons, faut pas l'oublier. Vieillissant, Ovechkin, hein, c'est plus un genou du printemps.
Mais il y a encore la shot.
Il y a encore la shot, puis il y a surtout encore beaucoup d'espace pour créer sa shot. Alors que ça fait 18 saisons, les programmes défensifs qui font la même chose. Alex Burrows. Je sais pas ce qui se passe dans la tête des joueurs, mais il oublie qu'il est sur la glace. C'est pas mal un prérequis.
C'est pas mal un prérequis. Salutations à Savanti qui est dans le chat.
Salut, boy.
Qui mentionne également le grand retour. Yes, on est là pour vous casser les oreilles pendant plusieurs mois encore. Bon,
ça va être le fun.
Écoute, Stéphane, là, je trouve qu'on a un petit peu trop de fun. Fait qu'on va revenir sur un sujet un peu douteux slash épineux. On n'en parlera pas beaucoup parce que, évidemment, on n'a aucune information. Mais le scandale d'équipe Canada Junior 2018, ça traîne, mais ça traîne solide On n'a encore aucune nouvelle. Là, il y a eu des petits rebondissements. Le Carter Hart qui a mis son compte Instagram privé. Brett Auden aussi. Fait que là, les rumeurs sont... Puis il y avait, je pense, aucune mention des Flyers dans le compte de Carter Hart. Fait que là, ça s'est mis à péter à gauche et à droite.
L'enfer. Ouf!
Mais moi, la question que je me pose là-dessus, puis je mets ma question, mais ma théorie. Je pense que la raison pour laquelle ça... Puis là, encore là, je parle, j'ai aucune information. Okay? C'est par pure spéculation que je dis ça. Mais moi, j'ai l'impression que il y a des gros noms qui sont là, puis c'est pour ça que ça brette de même. Parce que, tu sais, s'il y a un gros nom, c'est pas juste tu suspends le gars, puis merci, bonsoir. Le gars a des commanditaires. Le gars a probablement des fondations. Le gars a probablement, si ça, il y a plein de choses.
L'agent non plus veut pas. Tu es sur le bord de signer un contrat de plusieurs milliers et millions de dollars pour plusieurs années, puis là, ça sort. Tu oublies le contrat.
Parce que, tu sais, je veux dire quelque part, si... Je me dis, si... Exemple, puis tu sais, je veux pas manquer de respect aux joueurs, mais si c'est un Brett Auden, que c'est un joueur de 3-4e trio qui travaille à chaque semaine pour garder sa place dans le line-up, si c'est un gars comme Max Comtois maintenant, puis encore une fois, c'est pas pour manquer de respect, mais que tu sais, il est sur un essai présentement avec les Golden Knights de Vegas, c'est pas un attaquant de premier plan comme on avait vu avec les Ducks il y a plusieurs années. Tu sais, si c'était ce genre de joueur-là, je pense que ça serait pas mal plus simple parce que le gars n'a probablement pas autant de commanditaires, probablement pas autant d'engagement qu'un gars qui est un top guy, qui est, je me souviens plus c'est qui les gars qui étaient dans cette formation-là en 2018. Mais moi, j'ai comme l'impression que c'est très complexe parce qu'on a des gros noms là-dedans. Puis encore là, je peux peut-être me planter royalement quand ça va sortir, mais c'est pas normal que ça brette comme ça. À quel point que la LNH veut vraiment que cette enquête-là avance parce qu'évidemment, ça les met les pieds dans les plats pas mal, là. Tu sais, imagine, t'apprends qu'un Carter Hart, qui est un des plus beaux espoirs devant le filet dans la Ligue nationale, jadis, il y a quelques années, je veux dire, ça s'est calmé par la suite. Là. Il n'y a pas eu des grosses saisons avec les Flyers, même si, en même temps, les Flyers, c'était pas une grosse équipe en général. Mais tu sais, quand t'as un gros nom comme Carter Hart, ça sort, ça va faire mal à la réputation à la Ligue, peu importe les joueurs qui vont sortir de ce scandale-là. Mais si t'as des gros noms en plus, ça va être un méchant coup là, que la NHL va prendre. Moi, comme l'impression que c'est pas mal plus gros qu'est-ce qu'on pense, puis qu'on va peut-être tomber en bas de nos chaises quand ça va sortir, cette histoire-là.
Écoute, la rumeur est que, en tout cas, on en parle tantôt, Carter Hart serait parmi ceux-là, Brett Auden serait l'autre, Dylan Dubé serait le troisième, et le quatrième serait non le moindre. Un joueur moins connu, mais Jonas
Gadjevich.
Donc, c'est sûr que, comme tu dis, c'est pas des joueurs quatrième trio, mais c'est quand même des joueurs établis sur la Ligue nationale. Et... écoute, ce scandale-là va éclater, c'est sûr, certain. Oui, il y a un retard à cause de commanditaires, pression, peu importe. Moi, je pense que les agents sont là-dedans aussi. Je pense que la Ligue nationale est là-dedans aussi. Je pense que les ligues et la Ligue canadienne de hockey est là-dedans aussi. Donc, on ne veut pas taire la chose. Je pense qu'on ne peut pas taire la chose. Mais là, on a mis dehors tout le monde à Hockey Canada. On a mis tout le monde. On a mis un traité de discipline sur un an. Il va falloir renouveler à partir du mois de février tous ces gens-là, si on les garde ou pas, si on rentre à un nouveau CA ou des nouveaux directeurs, un nouveau président, et ça sera peut-être pas encore sorti. Donc, je pense que Gary Bettman ne veut pas que ça sorte peut-être aussi, mais je pense que l'association des joueurs non plus. Et ça va très loin. Ça va très, très loin. Mais je pense que malheureusement, il y a des gens qui sont assis sur leur divan à longueur de journée qui attendent de voir qu'est-ce qui va se passer sur les Instagram maintenant rendu X. Twitter, excuse-moi, qui est rendu X. Et le fait que Dylan Dubé, Brett Owen et maintenant Carter Hart ont mis leur Twitter ou leur X en compte privé depuis fait pas très longtemps, 2-3 semaines.
Donc, même pas, c'est il y a une couple de jours que ça s'est fait. Ouais. Fait que c'est vraiment récent. Encore là, Daniel Brière a commenté et a dit qu'il n'y avait rien à voir là-dedans, que Carter Hart avait hâte de commencer avec les Flyers et tout ça. On verra bien qu'est-ce que ça va donner. C'est peut-être un peu hasard aussi, mais c'est assez louche quand tu as plusieurs joueurs de la même cohorte qui se mettent en privé sur Instagram. Ça ne regarde pas très bien. Puis encore là, moi, c'est pas le temps que je veux savoir c'est qui. Moi, honnêtement, pas que je m'en fous, je veux dire, je banalise pas ce qui se passe, mais je suis pas un gars qui est vraiment voyeur puis qui est sneaker puis qui veut savoir là, c'est qui le petit crotté puis blablabla. Mm-hmm. Je veux juste que ces joueurs-là soient punis puis c'est tout.
Oui, on avait eu peur avec Max Comtois, finalement, à signer avec une autre équipe. On avait eu peur avec Alex Formanton, finalement, il est rendu ailleurs, je ne joue même pas avec National. Ou c'est Batterson, je pense. Non, c'est Formington.
Formington, il a joué ailleurs l'année passée, puis je pense qu'il n'a toujours pas signé avec les Sens.
Non, c'est toutes des choses. Sven Bergen, c'est la même chose. Donc, on avait quand même 8 joueurs au début. Là, ça finit à 5, là, c'est rendu 4. Est-ce que ça va être 3? On ne sait pas. Mais comme tu dis, il faut que ces joueurs-là soient punis. Elle n'ait pas peur de les punir. Puis ça, selon moi, c'est bien pire qu'on en a parlé un autre tantôt.
Prochain sujet. Écoute, on a parlé tantôt des retraités. Tu voulais faire la liste un peu des joueurs juste avant.
Ben oui,
j'en parle. Philippe, qui m'a dans le chat, on est de quelle ville? Je vais te laisser dire la tienne, mon cher Stéphane. Où tu restes?
Je suis un campi valencien. Si tu trouves la ville, t'es solide.
Moi, ben, je suis un Beauceron à Saint-Joseph-de-Beauce. On est carrément des opposés. Ben, pas opposés, mais
on est pas mal à
de Roche. Pas Stéphane, on n'est pas voisins. On va dire ça comme ça.
Exactement. Donc, ceux qui ne savent pas, campi valencien, c'est Salaberry Valleyfield. Donc, je suis originaire de la région de Québec. Déménagé dans la région de Trois-Rivières pendant une couple d'années. J'ai rejoué mon hockey mineur là-bas. Et à suite de ça, je suis retourné au niveau de l'ouest de l'île de Montréal. Et je reste maintenant à Salaberry Valleyfield depuis 2019.
Juste avant que tu poursuives, il y a Saventy qui mentionne qu'est-ce que Max Comtois a fait. En fait, rien, c'est juste qu'il était dans les rumeurs de ceux-là qui auraient pu être impliqués dans le scandale de l'équipe Canada Junior, mais le fait qu'il ait signé un contrat d'essai avec les Golden Knights, pour moi, ça va indiquer que...
Exact.
Je ne sais pas si ça sort cette rumeur-là. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui essaie de faire des équations.
Mais en 2022, quand ça avait pété, Max Comtois avait été parmi les 8 joueurs qui avaient été susceptibles d'avoir été là parmi ce que l'accusation avait été faite. Avait-tu d'arriver sur Twitter, avait dit que c'était pas lui. Avait joué après ça avec les Ducks pendant 2 ans. Et là, on signait pas avec les Ducks. On n'avait pas rien qui se passait au niveau des dernières semaines. Et là, quand comme moi, j'ai vu le contrat d'essai avec les Golden Knights, je me suis dit, bon, mais probablement les Golden Knights n'iraient pas là s'il y aurait eu Anguille-Souroche. Donc, c'est un peu là qu'on fait notre déduction, mais évidemment, c'est des rumeurs. T'sais. On n'a pas de chiffres, on n'a pas rien. Donc, c'est sûr qu'on fait des rumeurs.
Ben écoute, il y a des gens qui font ça de leur journée, faire des raccourcis à gauche et à droite parce
qu'on en connaît.
Pour trouver la vérité. Mais c'est sûr que le fait que Comtois, tu sais, ça marchait pas avec les Ducks, ça traînait. Ouais. Bon, il y a des gens qui ont commencé à faire l'association. Bon, c'est-tu à cause du scandale, pis ci, pis ça, mais tu sais, encore là, c'est des choses non fondées. Puis comme on a mentionné avec le fait qu'il a signé Vegas, pour moi, ça vient de mettre un terme à ces rumeurs-là. Mais je vais te laisser aller avec les retraités, parce qu'il y a Andrew Ladd qui a annoncé aujourd'hui, mais il y en a d'autres aussi qui ont décidé d'accrocher leur patin. Donc, il y en a qui c'est vraiment jeune, par exemple. Tu sais, Carl Hagelin n'était pas si vieux que ça.
Effectivement.
Je vais te laisser avec la liste.
Écoute, on va commencer par Andrew. Comme tu dis, il joue quand même depuis 2001-2002 avec National, quasiment une vingtaine d'années. 17 ans avec Ligue nationale, donc quand même 550 points, 1000 rencontres et une rencontre, 1000 et une rencontres, et non 1000 et une histoire, c'est une et 1000 rencontres. Donc Andrew Ladd avec ses 1000 et une rencontres, donc bonne retraite mon cher, était quand même une pierre angulaire avec New York là, depuis 2018, là, donc avec les Islanders, bien sûr, pas les Rangers. Donc l'attaquant de 6 pieds 3, 205 livres de Maple Ridge, British Columbia, a pris sa retraite, voilà. En fait, aujourd'hui. L'autre, c'est Michael Delzotto. Donc, Michael, oui. Michael, qui a pris sa retraite cette année. Donc, un autre produit canadien de l'Ontario à Whitchurch Shorefields. Donc,
C'est où?
Southfields. Donc, un autre attaquant, un autre défenseur qui a quand même bien fait la Ligue nationale. Pas connu peut-être la meilleure ressort dans les 4-5 dernières années.
Ça avait bien commencé, me semble, lui, avec les Rangers, mais après ça, ça a comme droppé.
Exact. Il avait été faire un tour dans la Ligue américaine en 2010, là, alors qu'après 47 rencontres, ça ne fonctionnait pas avec les Rangers. Il était revenu l'année d'après 41 points sur 17 rencontres. Et après son 21-11, 5 points en 25 games, et là, ça a été la déchéance, là.
Jouer 3 ans. Une saison de 32 points, mais après ça a été une
catastrophe. Là. Les Canucks en 2018, avec les Ducks en 2018, avec les Saint-Louis en 2018. Donc imaginez-vous, là. Puis là-dessus, il a réussi à faire seulement 10 points avec ces trois équipes-là. Donc ça a fini avec les Gulls l'année passée, les Checkers de Charlotte. Donc il y a eu un échange en plus dans la Ligue américaine pour amorcer seulement, même pas un point par match. Donc. Désolante carrière quand même pour un joueur qu'on voyait peut-être un petit peu plus gros dans notre soupe du côté des rangées.
Ouais, ben c'est un joueur de première ronde en 2008, 20e au total. Donc,
exact. Carl Hagelin, donc oui, quand même jeune, 35 ans.
Je pensais que c'était plus jeune que ça.
Non, 35 ans, mais quand même, je pense qu'on n'avait juste pas de contrat du côté de Kyle Loughlin. Avec Washington, ça allait pas vraiment bien. Pas connu l'essor non plus. Il a eu un bon début de carrière au niveau des Rangers, encore une fois. Mais c'était un joueur de troisième trio. C'était pas un joueur de premier et deuxième trio. On l'a vu assez rapidement. Sans son début de sixième en 2007 par les Rangers, il a quand même joué pendant 12 saisons. Petit attaquant rapide de 5 pieds 11, 187 livres de Nick Varne en Suède.
Moi, je retiens surtout ces séries en 2015-2016 oh. avec Phil Kessel et les Pingouins. Je me souviens plus c'était qui le troisième. C'était-tu Bonino?
Bonino.
Je sais plus c'était lequel. En tout cas, c'était le troisième trio des Pingouins puis il performait solide. Là. Il y a eu, je pense, c'est 15 ou 16 points. À Glenn, là, c'est 16 points en 24 matchs dans ces séries-là. Il y avait eu de très bonnes séries à ce niveau-là.
Ouais.
C'est un bon attaquant de troisième trio. Je pense qu'il amenait de la profondeur à l'attaque. Il a eu quand même des saisons respectables de 38 points en 64 matchs avec les Rangers. Il y en a eu une autre de 33 et de 35 avec les Rangers. Il y en a eu un autre de 31 avec les Pingouins. C'est sûr que c'était pas un attaquant top 6, mais c'est un gars qui s'amène de la pensée. C'est un troisième trio. Très bon coup de patin aussi, très rapide. Donc,
marchant de vitesse. Faut pas oublier aussi deux médailles d'argent. À Sochi et à World Junior en 2008, Sochi 2014. Donc, c'est un gars qui a présenté la Suède trois fois dans les championnats mondiaux internationaux. Donc, un bon joueur pour la Suède. L'autre que je m'attendais pas à ce qu'il s'en aille aussi rapidement, c'est Jonas Donskoy. Donc, l'attaquant de 31 ans a décidé d'accrocher les patins cette année. Un petit gars de la Finlande. Donc, j'ai quand même joué seulement une, deux, trois, seulement sept saisons en nationale. A connu quand même des bonnes saisons avec les Sharks. Encore une fois, un ailier droit de troisième trio. Avec l'Avalanche, a gagné la Coupe Stanley l'année passée. Et là, avec Seattle cette année, ça a été la coche qui a dépassé le vase. Donc, 22 points en 75 rencontres. Et on n'avait plus de contrat du côté de Donskoy. Donc, on a décidé d'accrocher nos patins et retourner en Finlande où ce qui va aller. Va aller coacher. Il a dit qu'il retournerait comme entraîneur là-bas pour essayer d'entraîner dans son pays natal. Donc, rouge tard, M. Donskoy. Bonne chance.
T'as-tu vraiment googlé, genre, bonne chance, genre, en Finlande? En Finlande
mon tatou, c'est mon nom de famille en finlandais, en passant. Faites ça comme ça. Et voilà.
OK. Et voilà. T'as le droit.
Mais oui, je sais, j'ai le droit. Effectivement, j'ai le droit. J'ai payé pour ça, Calvas. J'ai le droit en masse. L'autre, on voyait quelqu'un gardien de but cette fois-ci, Thomas Grice, qui prend sa retraite à l'âge vénérable de 37 ans que je suis. 37 ans. Donc, c'est comme si je prenais ma retraite aujourd'hui, Max. Et j'ai eu la saison.
Hey, ça dit que c'est pas loin, moi aussi.
Écoute, ils ont eu pas mal de monde qui m'ont appelé, savoir si je passais dans la ville avec ma coupe Stanley. Ils pensaient que j'étais Phil Kessel. Je mangeais des hot dogs dans la coupe, mais ça n'a pas marché. Donc,
non.
Si vous ne le savez pas, j'ai un lien de parenté avec Phil. Je suis son cascadeur sur la glace.
Cascadeur. Quand il a besoin de back-checker, c'est toi qui y vas.
Donc, je ne vous voyais pas parce qu'il est toujours en arrière de l'écran, mais là, je pars rapide d'aller de mon bord. Et,
d'ailleurs, petite parenthèse, M. Kessel qui n'a toujours pas de contrat.
Non.
L'équipe qui va lui faire signe, on arrive proche des camps d'entraînement. Lui a dit qu'il voulait continuer puis il était même prêt à sauter son tour une couple de fois. Là. Lui, il veut juste jouer au hockey puis il s'en fout d'être healthy scratch une fois de temps en temps. Il veut juste continuer puis que sa streak de matchs consécutifs, il s'en torche un peu. Mais est-ce qu'il y a une équipe qui va lui offrir un essai à suivre?
Ouais, ça plate pour vrai que ça se finisse comme ça. Et écoute, c'est un homme d'affaires depuis quoi? 2008 qui n'a pas manqué de match? Quand même, c'est incroyable. Donc, la recette, les enfants, les hot dogs, c'est vraiment important. Et le Coke Diet. Donc...
ouais, non, je suis pas sûr de celle-là. Comme pas sûr.
En 2023, en tout cas. Donc, je reviens à Thomas Grice. Donc, retraite pour Thomas Grice. Quand même, fait une coupe de saison. Jamais été le gardien numéro un. Était un très bon deuxième, par contre, avec surtout les Islanders pendant les 4-5 saisons qu'il était là-bas. Assis avec les Red Wings après, ça n'a pas fonctionné. Mais ça a été all and off pour Thomas et Thomas de la Germany, l'Allemagne. Donc, bonne retraite. L'autre, c'est Patrick Engvist.
T'as pas googlé bonne chance, bonne retraite en.
Non, non, good talk.
By the way, c'est depuis la saison 2010-2011 qu'il n'a pas raté de match.
2010-2011, ouais, tu vois. Ouais. Good job.
Mais
good
c'est
job.
Quand même une très, 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 très longue streak.
Ouais. Et là, on a le. Selon moi, pourquoi que les. pourquoi que les Pingouins gagnent la Coupe Stanley en 2017. Là, l'homme de fer devant le filet des Pingouins, Patrick Engvist, qui prend sa retraite à l'âge de 36 ans. Écoute, a mangé à peu près comme Holmstrom avec Détroit, à peu près 56 000 coups de bâton dans l'air de la tête pendant les playoffs en 2017. Il a dérangé tout le monde. A connu une bonne carrière. Pas beaucoup de matchs joués avec 901 malgré le nombre de saisons qu'il a joué. 543 points, ce qui est quand même très bon, mais c'est un gars qui ramassait les fameux shitty goals, il était vraiment là tout le temps, et c'est un gars qu'à l'international a joué à tous les deux ans, ou presque, donc c'est assez impressionnant, 2005-2007, 2007-2010, 2012-2016, 2018-2019, il a gagné la médaille d'or en 2017 avec la Suède, il a gagné la médaille de bronze en 2005 et en 2016, et honnêtement, ça a été un des gars... moi, ce que j'ai aimé mieux voir avec les Pingouins, un gars qui a joué la game dure. Et c'est une bonne retraite pour lui. Écoute, il devrait avoir le dos en compote depuis quand de marché, probablement. Mais écoutez ça, c'est un choix de 230e overall en 2005 des Predators de Nashville. Donc, quand même assez incroyable d'avoir des balles à Coupe Stanley puis tout au niveau de Ongvis en 2016 et 2017. Bonne retraite, mon cher.
Oui, bonne retraite à M. Ongvist. Est-ce qu'il t'en restait d'autres?
Oui, il m'en restait d'autres. En fait, m'en t'en nommer deux autres, parce que les autres, on s'en fout un peu. Là.
Ouais, peut-être les plus gros noms de la gang.
Ouais, c'est ça. Nate Thompson à Montréal.
Oh!
Nate qu'on a aimé.
L'homme qui est très, très, très utile dans les Pokudoku.
Ouais, les Pokudoku. Ouais, exactement, au gagner des mises en jeu.
Le club qu'il a fait, là, c'est payant, ouais. Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui y pense. Donc, et en cas de doute, si ceux qui sont des fans de Pokudoku, là, en cas de doute, Nate Thompson est rempli bien des cases.
Jets, Flyers, Canadiens, Kings, Senators, Ducks, Lightning, Islanders, Bruins. On est rendu à 9. Donc, ça ressemble à ça. Donc, pas grand-chose à dire sur Nate. Il a été quand même un joueur de 4e trio, 3e trio. Il connaît ses mises en jeu. Et le dernier, je vais finir avec les petits Québécois, Jonathan Bernier. Merci, oui. Joe. Ça n'a pas été une carrière vraiment facile pour lui. A essayé longtemps d'être premier gardien de but, ça a été difficile. Un choix de 11e au total en 2006 par les Kings, qui, selon moi, j'avais donné leur chance à Bernier d'être premier parce qu'il y avait Jonathan Quick avec lui. Et c'est dommage parce que c'est un gars qui jouait la game pour les bonnes raisons. C'est un gars qui a tout donné avec mes Red Wings depuis 2019 jusqu'en 2021. Mais il n'a pas connu les statistiques qu'il voulait. C'est quand même 165 victoires en carrière sur 404 matchs avec 18 jeux blancs. Donc, félicitations. Il a gagné le World Junior en 2008, la médaille d'or. Et ensuite de ça, il a gagné plein d'affaires individuelles jusqu'en 2016 avec la Coupe Spengler aussi en 2012. Donc, bonne retraite, Joe. Merci pour tout et bonne chance avec tes petites familles. Là, voir ce qui va se passer là-dedans.
Yes, mais écoute Stéphane, je pense que c'est ce qui conclut cette première édition du podcast d'Hockey sur demande. Encore une fois, très content d'être de retour là, pour cette année. Je vous rappelle, à partir de la semaine prochaine, pour les 4 prochaines semaines, donc jusqu'au début de la saison régulière, ça va être nos prédictions. Donc, on va analyser division par division dans chaque podcast. Faites vos classements, vous autres aussi. On veut comparer nos classements avec les vôtres. Et surtout... si vous voulez rien manquer de nos podcasts et tout ça, allez vous abonner là, à la chaîne YouTube ou allez voir faire un petit tour aussi sur la page Facebook de la Source du Hockey. On fait plein de textes également à chaque jour. Et s'il y a des gens qui nous écoutent en différé, qui nous écoutent sur Apple Podcast, un petit 5 étoiles, ça serait plaisant qu'on puisse monter un petit peu dans les charts des podcasts. Donc, si vous voulez vraiment nous encourager cette année, puis on veut essayer encore une fois de pousser ça à un autre niveau. Comme j'ai dit ce soir, on était censé avoir l'assistant coach des Condors. Malheureusement, jusqu'à maintenant, là, ne semble pas être disponible. Il était sur la route là, avec l'équipe, donc peut-être que la route était plus éreintante qu'anticipée, mais on veut essayer d'avoir des invités aussi tout au long de la saison. Le TIF va sûrement venir faire une coupe de tour aussi là, durant la saison régulière et qui a d'ailleurs signé un nouveau contrat avec le Cool FM. Donc, on va être de retour cette année.
Ouais, notre chum des Columbus aussi, on va lui demander.
Oui, Sam, s'il veut venir faire un tour. Donc, on va essayer d'avoir des invités un peu là, pour... puis, tu sais, pas juste des collaborateurs, mais on veut essayer de pousser pour voir que ce soit des joueurs, des entraîneurs, peu importe. On veut avoir, on veut pousser ça au prochain niveau. Puis, écoute, on va essayer de mettre la main à la pâte là, pour essayer de vous... divertir encore plus, puis vous amener des invités également de marque là, pour cette année. Donc, encore une fois, un gros merci. Allez vous abonner à nos différentes pages/plateformes. si vous allez sur Apple, un petit 5 étoiles, s'il vous plaît. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le début des prédictions pour la saison 2023-2024. À plus tout le monde.
Ciao!